Dans ce journal, on ira à l'Assemblée, puis au CESEC pour revenir sur les discussions d'hier. On s'intéresse aussi à la période des fêtes qui pourrait bien être marquée par une recrudescence des virus. Le journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Thierry, bonjour à toutes et à tous.
La tour des juges fait débat chez les politiques.
Et oui, depuis 3 mois, le débat il avait lieu entre Théa Houpeau, Paris et la présidence dans la presse locale ou internationale. Mais il ne s'était jusque-là que très peu exporté vers l'Assemblée. Eh bien, ça a été le cas hier matin à l'occasion de l'étude à Tarahoy d'un projet de loi qui vient réajuster les moyens du pays pour ce projet de tour des juges. Le texte a surtout pour objectif de contourner les règles de marché public afin de ne pas avoir à lancer de longs appels d'offres pour la construction de la tour, dont le coût a dépassé les 500 millions de francs. Mais les débats ont surtout porté sur la responsabilité de l'imbroglio actuel, et c'est avant tout le Tavini qui est à l'offensive. La majorité le rappelle, lors de la prise de pouvoir de Moatei Brotherson, Théa Houpeau avait été sélectionnée pour les Jeux Olympiques depuis plus de 3 ans et la tour en aluminium était déjà en construction. Alors les élus bleu ciel ne mâchent pas leurs mots contre le projet.
Une tour hors norme et hors de prix. On nous parle de plus d'un demi-milliard de francs actés par le précédent gouvernement et la construction de celle-ci a déjà démarré même avant l'arrivée du nouveau gouvernement. Une tour hors norme avec une structure métallique digne de Jurassic Park, avec des fondations gigantesques qui ne peuvent supporter le platier de Havre.
Voilà, vous avez entendu Odette Homey, représentante Tavini à l'Assemblée, dont le discours a été complété par d'autres élus de son parti. Tous parlent d'une opacité organisée, d'un projet mal préparé par l'ancien gouvernement, d'une tour infernale ou d'une patate chaude à 500 patates. Certains font même le lien avec les essais nucléaires et expliquent que le gouvernement Brotherson n'a pas d'autre choix que d'assumer les erreurs du passé. Ce que conteste Édouard Fritsch, particulièrement dans le viseur de ces débats. Écoutez.
J'ai envie de vous rappeler que vous êtes au pouvoir, que vous êtes maître de la situation, qu'il faut arrêter de gémir, il faut arrêter de chercher la mort du petit rouge. Vous faites que cela, trouver des bobos, trouver tout ce que l'on peut reprocher au gouvernement Tapura, parce que vous êtes incapable de prendre au moins une décision. Vous avez la possibilité d'arrêter les jeux. Pourquoi vous ne le faites pas? Et vous avez vu que d'autres communes sont déjà prêtes à prendre entre les lèvres. Pourquoi vous ne faites pas?
Voilà, Édouard Fritsch, pour qui le Tavini entretient lui-même la polémique autour de la tour pour des raisons politiques. L'ancien président qui insiste sur le fait que l'organisation des Jeux en Polynésie est une opportunité qui n'arrivera qu'une seule fois et que c'est l'occasion de rappeler au monde que la Polynésie est le berceau du surf. Et il a trouvé un soutien étonnant puisque côté Tavini, seul Oscar Temaru a nuancé l'offensive en expliquant qu'à 6 mois des Jeux, il fallait se concentrer sur l'organisation plutôt que sur le débat.
La polémique n'a plus sa place dans le débat que nous avons à organiser. Les Jeux, c'est dans 6 mois. Ici, nous n'avons pas le monopole du cœur, ni les associations qui... On aime tous notre pays. C'est demain, 6 mois.
De son côté, le camp Tapura estime que le Fénois pourrait abandonner l'organisation des Jeux à moindre coût. Si le gouvernement ne le fait pas, c'est parce que ces Jeux sont voulus par la population. Voilà ce qu'en dit l'opposition. Quoi qu'il en soit, cette épreuve de surf a un coût. 3,5 milliards de francs d'investissement pour le pays, en comptant les travaux de la marina de Théa Houpeau et du bord de mer. Mais aussi 815 millions pour l'État, auxquels s'ajoutent 1,1 milliard de coûts de fonctionnement. Les retombées locales de la compétition sont-elles estimées à 1,2 milliard? Mais comme l'a répété la ministre des sports hier, il s'agit avant tout d'économie circulaire.
Et toujours du côté de l'Assemblée, d'autres discussions hier matin.
Et notamment sur la réforme du règlement intérieur qui, pour le Tapura, donne trop de pouvoir au président de l'institution, Tony Géros. Elle a tout de même été votée. Autre texte à l'ordre du jour, une demande de saisine du Conseil constitutionnel, toujours de la part de Tony Géros, qui estime que l'État outrepasse ses compétences en fixant lui-même les stocks stratégiques de carburant pour la Polynésie. Un rôle qui devrait, selon le responsable indépendantiste, revenir au pays.
De son côté, le CESEC s'est intéressé au tourisme.
Ah oui, le Conseil économique et social devait analyser non pas un, mais 3 projets de loi du pays ayant un lien avec la nouvelle stratégie touristique du gouvernement. Une stratégie qui, vous le savez, va évoluer. Fini le plafond de 1 touriste pour 1 habitant, fini le tout haut de gamme. Moatei Brotherson vise 600 000 voyageurs annuels d'ici 10 ans, contre un peu plus de 250 000 aujourd'hui. Il veut réorienter une partie du flux vers la petite hôtellerie, les pensions de famille et même le logement chez l'habitant, Charles Irénée.
Oui, et ces choix n'ont pas été en eux-mêmes critiqués par le CESEC, mais dans le détail, le Conseil semble douter du cap fixé par le gouvernement. D'abord, les professionnels redoutent que le développement du séjour chez l'habitant se fasse au détriment de l'image de la Polynésie. Ils appellent donc le gouvernement à bien distinguer ces hébergements des pensions de famille dans les textes et surtout à bien contrôler le niveau d'hygiène et de service sur le terrain. L'autre recommandation importante, c'est d'augmenter drastiquement le budget de formation et d'accompagnement des professionnels, avec toujours en tête cette idée de maintenir la qualité, Val-de-Marne.
Et le CESEC qui a tout de même rendu un avis positif sur les trois projets, ce qui n'a pas empêché les conseillers de se montrer critiques sur le discours touristique de Moetei Brotherson.
Oui, et surtout sur la cohérence de ce discours avec les actes. 600 000 touristes pour les professionnels, c'est aujourd'hui utopique, surtout quand on voit les mesures du budget 2024 qui vient d'être voté. Certes, l'impôt sur le patrimoine immobilier et l'augmentation des taxes de séjour sont remises à plus tard, mais la défiscalisation sur les grands projets a bien été revue à la baisse et la fiscalité à la hausse sur l'hôtellerie. Le message vient justement des hôteliers. Il faudra compter aussi sur eux pour remplir les objectifs et il faudra davantage discuter, car pour le CESEC, plus de visiteurs, c'est aussi plus de déchets à gérer, plus d'impact environnemental et plus d'opposition de la part de la population.
Merci Charlie René. À noter que le CESEC s'interroge sur le projet de village tahitien également. Moetei Brotherson avait choisi de temporiser en début de mandature, mais ce projet à 1000 clés, 70 milliards, n'a plus refait parler de lui depuis.
La grève continue dans les dépôts pétroliers.
Et oui, le mouvement entamé jeudi par la CSIP dans les dépôts de la STDO, STDP et Somstat, des sociétés rassemblant plusieurs entreprises d'importation et de distribution, il n'a toujours pas été levé. Si le syndicat de Cyril Le Gaillic promettait de ne pas perturber l'approvisionnement du pays au début du conflit, la tension est montée ce week-end avec l'arrivée à quai d'un pétrolier censé alimenter notamment les réseaux Total et Mobil et certains approvisionnements des îles. Alors les grévistes n'ont pas pu légalement s'opposer au déchargement du navire. Mais ils ont veillé à ce qu'aucun renfort ne soit déployé pour aider le personnel non gréviste. Les opérations de transfert des hydrocarbures depuis le pétrolier jusqu'aux cuves de Fareouté ont pu commencer, mais de façon beaucoup plus lente qu'à l'accoutumée. Pas de risque de pénurie dans les stations donc, mais d'après Polynésie la Première, certaines îles s'inquiètent de leur approvisionnement dans les prochaines semaines, notamment au Tuamotu. Pendant ce temps, aucune avancée n'est à noter sur le préavis de la CSIP qui demande entre autres des revalorisations salariales pour absorber la hausse du coût de la vie.
On continue Val-de-Marne avec ce chiffre.
3800, c'est le nombre de créations d'entreprises en 2022 d'après les dernières données de l'ISPF. Un chiffre qui est en augmentation de 3% par rapport à l'année précédente, qui amène à 35 000 le nombre d'entreprises actives dans l'industrie, la construction, le commerce ou les services. A noter tout de même que 90% de ces structures sont en fait des patentes individuelles et que la quasi-totalité des entreprises, quelle que soit leur forme, lancent leur activité sans aucun salarié.
On parle santé avec cet appel à la vigilance sur les virus à l'approche des fêtes.
C'est ce que demandent les autorités sanitaires qui constatent une circulation importante des derniers variants de Covid. Malgré un fonds d'immunisation naturelle ou par la vaccination, les contaminations s'enchaînent et une dizaine de personnes étaient hospitalisées la semaine dernière du fait de la maladie. Et notamment en raison du variant JN1. Il a été détecté il y a plusieurs mois aux États-Unis avant de faire une entrée fracassante dans les statistiques épidémiques françaises à partir du mois d'octobre. Bourré de mutations alors qu'il ne le rendent pas plus dangereux mais qui renforcent sa contagiosité. Cette forme de Covid, parfois surnommée Pirola, est aussi présente au Fénois depuis plusieurs semaines. Difficile pour les autorités de quantifier avec précision sa circulation, comme le souligne le docteur Henri-Pierre Mallet, il est médecin épidémiologiste pour la RAS.
On a des indicateurs indirects qui nous confirment que l'épidémie est toujours en cours. On est dans une vraie vague épidémique qui est la première aussi importante en 2023. Pour la semaine dernière, les premiers résultats qu'on a, mais qui ne sont pas consolidés, montrent qu'on a encore une petite dizaine d'hospitalisations, probablement le même nombre à peu près de cas confirmés, mais encore une fois, ça c'est très compliqué à déterminer. Mais on voit que 40 à 50% des tests qui sont réalisés sont positifs en Covid. Donc ça montre bien qu'il y a une circulation importante de ce virus. À côté, probablement, d'autres virus qui commencent également à augmenter, d'ailleurs.
D'autres virus, comme la grippe saisonnière, déjà présente au Fénois et que les vacanciers de fin d'année pourraient bien augmenter en ramenant de nouvelles souches. Un cocktail épidémique explosif pour les fêtes, il s'agit donc de se protéger. Masque, hygiène des mains et même isolement pour éviter de toucher des personnes vulnérables. Des personnes pour qui les rappels de vaccins Covid et grippe sont plus que jamais conseillés. Autre question importante pour ces prochains jours, faut-il honorer les invitations au réveillon quand on se ces malades? C'est une question de cas par cas et de bon sens pour le docteur Mallet.
C'est toujours du cas par cas et une responsabilité individuelle de bien comprendre. Voilà, le micro, il va se transmettre par l'air. Dès que je parle, que je tousse, il faut faire en sorte que les autres personnes ne l'attrapent pas. Donc, on garde la distance, on met le masque, on aère. Et au pire des cas, effectivement, et ben, malheureusement, on reste chez soi exceptionnellement pour ne pas mettre en danger la mamie toute fragile.
Voilà, des propos recueillis par Charlie René.
Les fêtes, justement, qui vont avoir lieu avec un mauvais temps.
Et oui, Météo France observe actuellement une bande particulièrement pluvieuse, voire orageuse, qui se met en place dans les îles de la Société, une grande partie des Tuamotu ainsi qu'au Gambier. Ce mauvais temps est prévu de persister jusqu'en fin d'année, c'est ce que précisent les prévisionnistes. Il faut donc s'attendre à un temps plus pluvieux que la normale sur cette période, avec à par endroit d'importants cumuls de pluie. Pas de risque de cyclone pour l'instant, et les Marquises et les Australes devraient rester à l'écart du mauvais temps, mais les cumuls de pluie devraient être très importants au Raromatei et aux îles du Vent d'ici le nouvel an. Il est encore trop tôt pour identifier les zones les plus impactées par d'éventuelles intempéries au sein même des archipels concernés. Voilà ce que précisait vendredi Météo France. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir écouté. On se retrouve à 7h30 pour votre revue de presse locale.
Merci beaucoup Valdemar. Il est 7h11.